Aujourd'hui, nous sommes le 6 mai. Dans deux jours, c'est le
8 mai.
Très bien. Et c'est quoi le 8 mai? C'est quoi?
Un jour férié.
Un jour férié. D'accord. Et pourquoi c'est un jour férié? Et il est peut-être projet de le supprimer parce que les gens bientôt ne sauront plus ce que c'est. Alors peut-être, je ne sais pas. L'armistice, exactement. Voilà. Dans deux jours, le 8 mai... Notre pays commémorera la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Voilà des journaux de l'époque et de la région. Et cette victoire, cette libération, n'a été possible que parce que des hommes et aussi des femmes se sont battus contre un ennemi puissant. Et heureusement, parce que sans eux, il n'y aurait pas eu de victoire ni de libération. Il n'y a pas de victoire sans combat, et il n'y a pas de libération sans lutte. Et cela est aussi vrai sur le plan spirituel, dans notre marche avec Dieu. Nous ne connaîtrons pas la victoire si nous ne partons pas au combat, et nous ne connaîtrons pas la libération si nous refusons la lutte. Alors, en réfléchissant à tout ça, j'ai pensé à un texte qui illustre tout cela. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans mon étude de ce texte, un texte que pourtant je connais bien, je me suis rendu compte que ce texte soulignait également le mécanisme par lequel le peuple de Dieu pouvait mutuellement se décourager de suivre Dieu, et comment les craintes des uns pouvaient provoquer l'hésitation à combattre des autres, et comment cette hésitation se transformait en une réticence à se battre, et comment la réticence à combattre pour Dieu devenait de l'opposition à suivre Dieu, un refus de suivre Dieu et de s'engager dans le combat. C'est un peu comme un effet de domino. Une petite pièce peut en faire tomber une et plusieurs autres, de plus en plus grosse. C'est une espèce de spirale, ou de dynamique, mais de mauvaise dynamique. Et dans notre marche avec Dieu, nous devons particulièrement veiller à cela, à ne pas nous décourager mutuellement de suivre Dieu. Sinon, nous ne connaîtrons pas la victoire. Sinon, nous ne vivrons pas la libération. Alors, c'était une lecture commenté de la Bible que je vous invite ce matin. Cette lecture commencera dans le livre des Nombres, chapitre 13. Alors, on a parlé beaucoup de l'utilité, de l'intérêt de lire la parole de Dieu. J'espère qu'on va pouvoir la mettre en pratique maintenant. Et si jamais vous avez encore un petit peu de temps, le temps que je présente le contexte de ce passage, pour aller chercher votre Bible. Et si ce n'était pas le cas, il y en a au fond, là-bas, des blanches. Et si jamais vous avez une Bible blanche, c'est à la page 104 qu'il faut l'ouvrir. Nombres, chapitre 13. Mais avant de commencer notre lecture, je vais rappeler le contexte dans lequel se déroulent les événements que nous allons lire. Alors, nous sommes environ 1400 ans, 1200 ans avant la naissance de Jésus. Il y a une incertitude, c'est soit l'un, soit l'autre. Et le peuple d'Israël, Moïse à sa tête, est sorti d'Égypte, pays dans lequel il était esclave depuis près de 400 ans. Et cette libération s'est produite dans des circonstances extraordinaires. Dieu est intervenu en faveur de son peuple à de nombreuses reprises et de façon très spectaculaire. Et en particulier, l'armée égyptienne, qui s'était lancée à leur poursuite, a été anéantie miraculeusement par Dieu. C'était l'armée la plus puissante du monde, et cette armée a été vaincue. Le peuple n'a donc plus rien à craindre sur ses arrières et il peut maintenant se rendre dans le pays de Canaan, qui est l'actuel Israël. Et c'est un pays que Dieu a promis de donner à son peuple. Et c'est une promesse ancienne, puisque Dieu en avait déjà fait la promesse à Abraham plus de 400 ans plus tôt. Et voilà ce que Dieu avait dit à Abraham en Genèse 15. Le Seigneur lui dit: « Sache bien que tes descendants vivront en étranger dans un pays qui ne leur appartiendra pas. Et on fera d'eux des esclaves, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je punirai la nation qui les aura réduits en esclavage, et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. Et le peuple d'Israël vit véritablement ces événements-là. Tout s'est déroulé exactement comme Dieu l'avait annoncé, comme Dieu l'avait promis. Formidable, Dieu est en train d'intervenir en leur faveur. Et Dieu avait précisé également dans quelles conditions tout cela allait se produire. Il fallait qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Voilà ce qu'il avait dit en Genèse 15. C'est seulement à la quatrième génération que tes descendants reviendront ici, car jusqu'à présent, les Amoréens, c'était un peuple qui occupait Canaan, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leurs crimes. Dieu avait dit qu'il ne détruirait pas les peuples qui habitaient Canaan avant que les abominations qu'ils commettent n'atteignent les pires horreurs. Et ce moment est justement venu, parce que ces peuples qui occupent actuellement le pays commettent de telles horreurs qu'ils offrent même leurs propres enfants en sacrifice à leurs idoles. Et Dieu a donc décidé qu'il était maintenant venu de faire disparaître ces peuples et leurs pratiques abominables. Et à leur place, Dieu va justement mettre un peuple qui lui appartiendra et un peuple qui marchera dans la lumière et dans la justice, son peuple. Et voilà la manière dont son peuple va remplacer les peuples actuellement en place. Dieu avait dit cela. « J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. J'enverrai les frelons devant toi. Et ils chasseront loin de toi les Héviens, les Cananéens et les Hittites. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi. Sinon le pays deviendrait un désert et les bêtes des champs se multiplieraient à ton détriment. C'est peu à peu que je les chasserai loin de toi. » Jusqu'à ce que tu aies suffisamment augmenté en nombre pour pouvoir hériter du pays. Formidable nouvelle pour le peuple de Dieu. Dieu lui-même va précéder son peuple et va chasser progressivement ses ennemis de devant lui et lui assurer ainsi une victoire certaine. Voilà la merveilleuse situation dans laquelle se trouve le peuple de Dieu. Hier, en tout cas il y a quelques semaines, ils avaient encore l'impression d'être un peuple abandonné par Dieu. Hier, c'était un peuple d'esclaves. Mais aujourd'hui, ils savent que Dieu les accompagne. Et ils savent, en s'appuyant sur les promesses de Dieu, ils savent que demain, Dieu va leur accorder la liberté dans un merveilleux pays. Et que Dieu va même les précéder afin de leur accorder la victoire sur leurs ennemis. Le peuple de Dieu qui est sorti d'Égypte se trouve maintenant dans le désert, dans un endroit qui est appelé Kadès. Voilà, c'est au bout de la flèche rouge. Il n'est plus très loin maintenant du pays que Dieu a promis de lui donner. Et nous allons maintenant commencer notre lecture au chapitre 13 du livre des Nombres. Nombre 13, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Envoie des hommes explorer le pays de Canaan, que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi leurs princes. » Moïse envoya ces hommes du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Ils étaient tous chefs des Israélites. Alors ensuite, il y a la description, tribu par tribu, de ces hommes. Et ces 12 hommes ainsi qui partent en reconnaissance dans le pays que Dieu leur a promis. Je saute au verset 17. Moïse les envoya explorer le pays de Canaan et il leur dit, montez ici par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais. Quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. C'est à l'époque des premiers raisins. Ces hommes montèrent et explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Et verset 25, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Alors, on sait peu de choses sur ces explorateurs, mais en tout cas, ce qu'on peut en déduire, c'est qu'ils étaient forts et vigoureux, parce qu'en 40 jours, ils ont dû parcourir près de 800 km à pied. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez là, mais en violet, c'est le trajet qu'ils ont fait à l'aller, et en vert, c'est le trajet qu'ils ont fait au retour. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme s'il fallait partir d'ici, à pied, pour aller à Paris et revenir, sauf que le pays que vous allez devoir traverser est un pays inconnu, avec des populations qui sont vraisemblablement hostiles, et que dans tout cela, il va vous falloir vous débrouiller pour survivre. Donc ce n'était pas n'importe qui sont partis. Et au bout de 40 jours d'exploration, ces hommes sont de retour. Verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voilà ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. » Description merveilleuse du pays que Dieu leur a promis de leur donner. C'est vraiment un pays formidable. Peut-être qu'ils avaient un doute avant de partir. Mais là, non. C'est vraiment un pays formidable. Dieu n'a pas exagéré. Ce n'est pas un rêve. C'est vrai. Les chefs du peuple l'ont vu de leurs propres yeux. Là où Dieu veut emmener son peuple est un endroit merveilleux. Alors, le peuple de Dieu devrait donc être encouragé dans sa marche et se préparer à prendre possession du pays que Dieu a promis de lui donner. Dieu les précède, ils n'ont donc plus qu'à le suivre. Pourtant, ce n'est pas exactement ce qui va se passer. Et la suite du récit nous fait rentrer dans la spirale du découragement. La spirale du découragement, c'est une sorte de tourbillon, vous voyez, comme ceci, qui tourne et qui tire tout ce qu'il y a à la surface au fond. La spirale du découragement va tirer le peuple de Dieu vers le fond. C'est une spirale où, mutuellement, les uns et les autres vont se décourager de suivre Dieu et se décourager de rentrer en possession de ce que Dieu a promis de leur donner. Et la spirale du découragement commence souvent par pas grand-chose. Et dans notre récit, elle commence par la crainte des explorateurs. Après avoir dit « c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel », donc manière imagée, bien sûr, de dire que c'est vraiment un pays d'abondance, un pays merveilleux où il fera bon suivre, ils poursuivent leur rapport par un « mais ». C'est un pays merveilleux, mais, cependant, seulement, il y a un souci. Verset 28, « Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébousiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée. » Et le long du Jourdain. Donc là, il ne se contente plus de faire un rapport objectif, mais il laisse transparaître aussi leurs craintes personnelles. C'est un pays formidable, mais l'obstacle que Dieu nous demande de franchir est trop gros. Alors, ils ont bien fait de dire au peuple les obstacles qu'ils allaient devoir affronter. C'est même précisément pour cela que Dieu les a envoyés en mission, afin qu'ils puissent voir de leurs yeux ce qui les attendait et ainsi faire au peuple un rapport de tout ce qu'ils avaient vu. À savoir deux choses. C'est un pays merveilleux et c'est un pays habité par plusieurs groupes puissants où les villes sont grandes et fortifiées. Dieu veut que nous sachions que ses plans pour nous sont merveilleux, Dieu veut nous accorder une vie merveilleuse. Et Dieu veut que nous sachions également que pour rentrer dans cette vie-là, il va nous falloir courageusement affronter certaines difficultés. Mais, et s'il faut rajouter un mais, c'est celui-ci, mais si nous suivons Dieu là où il veut nous emmener, puisque nous obéissons à sa volonté, alors la victoire nous est assurée, parce que Dieu nous précède et parce que Dieu nous accordera la victoire. Dans leur rapport, les explorateurs ne mentionnent pas la fidélité de Dieu, mais ils soulignent au contraire les difficultés qui se présentent à eux. Difficultés qui supposent que Dieu ne va pas intervenir en faveur de son peuple. La crainte, le doute, c'est-à-dire le manque de foi de ces explorateurs, qui sont en plus, c'est pas n'importe qui, hein, ce sont des princes, des chefs, et bien leur crainte va produire son effet sur le peuple. Et le peuple perçoit la crainte et la réticence de ses chefs à aller de l'avant. Et cette crainte provoque bien évidemment des discussions au sein du peuple. Et pas des discussions bienveillantes, mais des paroles contre son chef, contre Moïse. Bla bla bla, bla bla bla. Le peuple manifeste son inquiétude, plus que cela encore, il manifeste sa désapprobation à accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'en s'en prenant à Moïse, le peuple s'en prend en réalité à Dieu. Moïse n'a fait que communiquer la volonté de Dieu. Le peuple a peur, et il désapprouve la volonté de Dieu. Et heureusement, le courageux Caleb, un des 12 explorateurs, intervient, c'est au verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il impose le silence, il a quelque chose d'important à dire. Et voilà ce que dit Caleb au peuple de Dieu. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alors voilà des paroles qui doivent réjouir le cœur de Dieu, parce que ces paroles reflètent la foi de Caleb envers son Dieu, la foi que tout le peuple devrait avoir en son Dieu. Caleb a entendu dire Dieu, allez-y. Alors lui-même dit au peuple, allons-y. Et il rajoute, nous y serons vainqueurs. Et pourquoi dit-il cela? Pas parce qu'il croit que le peuple de Dieu est plus fort que les ennemis qui se dressent sur leur route. Alors, Caleb ne sous-estime pas les difficultés. Il les a vues de ses propres yeux. Lui aussi a vu, verset 28, il a vu que le peuple qui habite ce pays est puissant, que les villes sont fortifiées, très grandes. Il dit même, nous avons vu des descendants d'Anak. Alors, les descendants d'Anak, c'était un peuple de très grande taille, et très puissants. Ils sont même parfois à d'autres endroits appelés des géants. Alors Caleb ne s'imagine pas que le peuple de Dieu est plus fort que ses ennemis, mais Caleb croit en la victoire parce qu'il a confiance que Dieu viendra au secours de son peuple. Puisque Dieu l'a promis, alors Dieu le fera. Et c'est ce qu'il dit au peuple craintif qui est devant lui, et il les exhorte à obéir à Dieu et à lui faire confiance. « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs !» Et là, la situation aurait peut-être pu basculer et le peuple reprendre confiance, mais l'impensable se produit alors. Les autres explorateurs, les chefs, en tout cas la majorité d'entre eux, prennent à nouveau la parole, mais au lieu d'exhorter le peuple à obéir à Dieu et à placer sa confiance en lui, ils amplifient et dans le mauvais sens, les peurs et les réticences du peuple à obéir à Dieu. Alors que le peuple murmurait contre Moïse, eux franchissent une nouvelle étape dans la spirale du découragement. Ouvertement, ils dissuadent le peuple de faire confiance à Dieu et d'obéir à sa volonté. Verset 31, ils disent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Il aurait mieux fallu qu'il se taise et qu'il laisse parler Caleb. Parce que ces hommes découragent le peuple de Dieu en lui disant « Ce que Dieu nous demande est trop difficile, nous n'y arriverons pas. » Et c'est d'autant plus regrettable que ces chefs, ces princes, devraient au contraire encourager le peuple à obéir à Dieu, à lui faire confiance. Ils auraient dû dire, oui, devant nous, humainement, il y a des obstacles qui nous paraissent insurmontables. Mais nous serons vainqueurs parce que Dieu nous commande d'aller au combat et parce que Dieu nous a promis de nous accorder cette victoire. Mais ils font l'inverse et disent au peuple, nous ne pouvons pas obéir à la volonté de Dieu parce que nous n'aurons pas la victoire. Et suite à cela, ça continue. Ils franchissent encore une nouvelle étape dans le découragement. Ils font, et ça je pense que nous avons tous tendance à le faire, ils font ce que nous faisons lorsque nous refusons d'accomplir la volonté de Dieu ou que nous décourageons les autres d'obéir à la volonté de Dieu. Nous justifions cela par de mauvaises raisons. Et je dis bien de mauvaises raisons parce qu'il n'existe aucune bonne raison de ne pas obéir à Dieu et ne pas lui faire confiance. Et voilà la mauvaise raison qu'il donne au peuple. Verset 32. Ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avions vus sont des hommes de haute taille. Nous avons vu les géants, les descendants d'Anak, de qui sont issus les géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Est-ce bien vrai ce qu'ils disent là? On a l'impression que d'un seul coup, ce n'est plus le même pays qu'ils ont visité. Non. Le pays qu'ils ont visité, c'est un merveilleux pays. Il y a encore quelques minutes, c'était vraiment un pays où coule le lait et le miel. Sauf que maintenant qu'ils ne veulent plus suivre Dieu, ils inventent de mauvaises raisons pour ne pas le faire et pour décourager les autres à le faire. Nous justifions toujours notre refus de suivre Dieu par de mauvaises raisons. Et maintenant, à les entendre, le merveilleux pays est devenu un pays terrible. C'est un pays qui dévore ses habitants. Vous imaginez, vous iriez dans un pays qui dévore ses habitants? Bien sûr que non. Et alors qu'ils ont croisé seulement quelques descendants d'Anak, des hommes de grande taille, maintenant, le pays en est entièrement peuplé. Ils disent, tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et ils sont même tellement grands maintenant qu'ils disent, c'est comme si nous étions des sauterelles à leurs yeux. Là. Vous imaginez, on a l'impression de se retrouver là, quoi. Voilà. Un peuple, un pays qui dévore ses habitants, peuplé d'ennemis tellement grands qu'à leurs yeux, nous sommes des sauterelles. Quelle exagération, quelle transformation de la réalité. Et ce n'est pas tout. Souvent, en même temps que nous dénigrons ce que Dieu nous propose, oh non, c'est pas intéressant ce que Dieu nous propose. Les difficultés sont trop grandes. En même temps, nous mettons en place un autre mécanisme. Mécanisme inverse, celui qui consiste à embellir ce qu'est notre situation ou ce que serait notre situation sans Dieu. Et voici encore une nouvelle étape, voilà, du découragement mutuel. Chapitre 14, verset 1. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Et voici ce qu'ils disent. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Cela paraît incroyable. Maintenant, la mort devient préférable à la vie que Dieu propose. Et ils poursuivent au verset 3, « Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. » Retourner en Égypte devient préférable à vivre là où Dieu veut les emmener. Mais l'Égypte, ce n'était pas un beau pays, c'était le pays dans lequel ils étaient esclaves. Un pays où ils n'avaient aucune liberté, un pays même où le pouvoir en place pouvait prendre leurs enfants et les mettre à mort. Un pays dans lequel ce peuple était à la merci de son oppresseur, qui pouvait disposer de lui comme il le voulait. Combien notre vision des choses devient fausse lorsque nous avons pris la décision de nous détourner de Dieu. Nous avons là une illustration typique du mécanisme que nous mettons trop souvent en place lorsque nous refusons d'obéir à Dieu et de lui faire confiance. Nous relativisons ou nous dénigrons ce que Dieu veut nous offrir. Nous disons, en fait, tout bien réfléchi, le plan de Dieu pour moi n'est pas si bon que cela. Parce que des fois, on ne se dit pas ça. Les projets de Dieu pour moi ne sont pas si bien que ça. Ce que Dieu veut, c'est peut-être bien pour les autres. Mais ça ne l'est pas pour moi. Ce que Dieu veut, c'est bien dans les grandes lignes. Mais moi, je me trouve dans un cas particulier. Ce n'est pas valable pour mon cas. Lorsque notre regard se détourne de Dieu, nous oublions qui est Dieu et nous oublions que ce que Dieu a à nous proposer est bien plus beau que tout ce que nous pouvons, nous, de notre côté, espérer. Nous avons aussi tendance à exagérer les difficultés auxquelles nous allons être confrontés. Et au lieu de reconnaître les choses comme elles sont, c'est difficile pour nous, nous disons, c'est impossible pour nous. Là où il y a quelques difficultés réelles, nous en rajoutons plein d'autres imaginaires. De temps en temps, devient par exemple « toujours » ou bien « jamais ». Ce sera toujours comme ça, ou jamais comme ça. Alors bien sûr, on dit ça en fonction de ce qui nous arrange. Et en face des exigences de Dieu, quelque part la surenchère. Dieu nous demande ça, oui mais nous, en même temps, on veut ça. Et nous rajoutons nos propres exigences et nous disons « ce n'est pas possible, parce que cet objectif-là, sous-entendu le nôtre, ne pourra pas être atteint. » Lorsque notre cœur se détourne de Dieu et que nous n'avons pas vraiment envie d'aller dans la direction que Dieu veut que nous prenions, nous inventons diverses raisons qui nous empêchent d'aller de l'avant. Nous oublions que Dieu est celui qui aplanit notre sentier et qu'il est celui qui vient à notre secours. Nous avons aussi tendance à embellir notre situation présente ou passée, notre situation sans Dieu. C'est comme si nous essayions de nous convaincre nous-mêmes qu'après tout, on n'est pas si malheureux et si mal que cela. Lorsque nous réalisons que nous nous détournons du projet merveilleux que Dieu a pour nous, alors nous nous consolons en faisant comme si jamais ce n'était pas grave et comme si jamais ce monde-ci pouvait nous rendre heureux. Ne mettons pas en place des mécanismes qui nous détournent de Dieu. Au contraire, restons attachés à lui, même si les autres tentent de nous en décourager par leur attitude, leur vie, leurs paroles. Mais nous ne sommes pas contraints de faire comme les autres. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Même s'ils sont plus nombreux que nous. Nous avons parfois un fonctionnement qui est un peu du type démocratique. Et c'est tant mieux. Et d'ailleurs, on voit l'importance pour une église, l'importance d'être membre ou pas, la différence entre membre ou pas membre. Hein. Pour faire simple, c'est que on devient membre, les gens peuvent devenir membres d'une église lorsqu'ils ont marqué un attachement personnel à suivre Dieu là où Dieu veut les emmener. Et c'est très important, parce que c'est ces mêmes membres, en tout cas dans notre fonctionnement d'église, qui eux-mêmes vont engager l'église dans une direction ou dans une autre. Donc là, nous voyons déjà le choix des membres. Mais parfois, nous sommes dans des milieux où nous pouvons être les seuls contre tous. La majorité n'est pas un bon critère pour savoir si nous suivons Dieu, parce qu'il faut que nous soyons conscients que la majorité des gens ne suit de toute façon pas Dieu. Donc ils ne sont pas de bons conseils. Je prends ma lecture au verset 5. Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'assemblée réunie des Israélites. Membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué et Caleb, donc on découvre qu'en fait ils sont deux à être restés fidèles à Dieu, déchirèrent leurs vêtements, c'est un signe de deuil. Et ils dirent à toute l'assemblée des Israélites, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée, ils n'ont plus de protection, et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Nouvelle mise en garde et exhortation de ceux qui sont restés fidèles à Dieu. Ne vous révoltez pas contre Dieu, parce qu'en fait, c'est bien de ça dont il s'agit. Se révolter contre Dieu ou suivre Dieu. Faites-lui confiance, n'ayez pas peur. Mais hélas, le peuple ne les écoute pas. Et alors, le peuple réfléchit sérieusement à condamner et à mettre à mort ceux qui sont restés fidèles à Dieu. Verset 10, « Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. » C'est une inversion de ce qui est bon et juste aux yeux de Dieu. Ce qu'il faudrait condamner deviennent ceux qui sont restés fidèles à Dieu. Heureusement que Dieu intervient alors. Et la sanction de Dieu tombe, puisqu'ils ont refusé de faire confiance à Dieu et qu'ils ont refusé de lui obéir et de prendre possession du merveilleux pays qu'il leur donnait. Eh bien, Dieu va leur donner quoi ? Exactement ce qu'ils espéraient. Ils ont dit, il vaut mieux mourir dans le désert ? Il vaut mieux vivre sans Dieu ? Eh bien, Dieu va leur donner cela. Verset 28, Dieu dit, « Je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous n'entrerez pas dans ce pays que j'ai juré de vous faire habiter. Aucun de vous n'y entrera, excepté Caleb et Josué. » Quant à vos petits-enfants, eux dont vous avez dit qu'ils deviendraient une proie, je les ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous, vous avez dédaigné. Mais vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Et vos enfants seront nomades pendant 40 ans dans le désert. Ils supporteront les conséquences de vos infidélités jusqu'à ce que tous vos cadavres soient tombés dans le désert. Vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans, une année pour chaque jour. Ainsi vous saurez ce qu'est d'être privé de ma présence. Parce que le peuple, en principe le peuple de Dieu, n'a pas voulu suivre son Dieu, alors ce peuple va connaître 40 années de désert. 40 années pendant lesquelles ils vont tourner en rond sans arriver nulle part parce qu'ils se sont détournés de Dieu. C'est terrible, hein ? Est-ce que c'est ça que nous voulons pour notre vie ? Est-ce que c'est ça que nous voulons pour notre Église ? Une vie de désert, une vie qui ne mène nulle part, une vie où la mort semble même la meilleure issue possible. Meilleure issue que ce que Dieu propose. Et tout ça parce que nous avons refusé de suivre Dieu. Ces textes sont pour nous des avertissements. Ne rentrons pas dans la spirale du découragement. Vous savez, des fois, c'est facile, hein ? Ça commence par pas grand-chose, comme nous l'avons vu dans le texte. Ne rentrons pas dans cette spirale du découragement qui commence par remettre en cause l'autorité ou la bonté de Dieu. Dieu est-il réellement bon ? Dieu a-t-il réellement dit que ? Et cette spirale se poursuit lorsque nous reprenons à notre compte et que nous amplifions les craintes des autres. Et des fois, parfois c'est ça, moi je me rends compte, hein, parfois avec nos propres enfants, ils ont une certaine crainte. Et nous, en tant que parents, on amplifie encore cette crainte. Et on va encore plus loin qu'eux-mêmes vont. Mais si on fonctionne comme ça, mutuellement, on ne va pas s'en sortir. Prenons garde de ne pas nous décourager les uns les autres, mais au contraire, faisons ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 11, qui nous dit « Encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. » Alors que faire ? Fixons notre regard sur Jésus plutôt que sur nos propres craintes ou que celles des autres. Notre Dieu est fidèle. Est-ce que nous croyons que notre Dieu est fidèle ? Si nous croyons que notre Dieu est fidèle, alors confions-nous en lui. Si nous ne pensons pas que Dieu est fidèle, remettons-nous à lire ce livre et à voir ce que Dieu a fait dans nos vies. N'accordons pas de crédit aux conseils et aux mauvaises raisons qui nous pousse à nous écarter de la volonté de Dieu. On trouve toujours des raisons pour ça, toujours. Restons fidèlement attachés à suivre en tout point la volonté de Dieu. Il n'existe pas de bonne raison de ne pas suivre Dieu. Et nous-mêmes ne disons pas aux autres ce qu'ils ont envie d'entendre. Des fois, c'est tellement plus simple de dire aux autres ce qu'ils ont envie d'entendre. Au contraire, mettons en lumière la volonté de Dieu telle qu'elle nous est rapportée dans la Bible, sans rien ajouter, mais sans rien retrancher non plus. Que Que notre marche avec Dieu ne soit pas orientée par ce que pense la majorité des gens. La majorité des gens ne suivent pas Dieu. Ce n'est donc pas eux que nous devons suivre. Mais inspirons-nous plutôt de la vie de personnes qui marchent fidèlement avec Dieu, même si cela nous procure l'incompréhension de la majorité des gens que nous côtoyons. Et souvenons-nous de qui est Dieu. Notre Dieu est un grand Dieu. Notre Dieu est bon. Notre Dieu a un grand projet pour nous, un projet d'amour. Dieu veut que nous connaissions la victoire et la libération, et en particulier celle du péché. Mais nous ne connaîtrons pas de victoire sans combat. Et nous ne goûterons pas à la liberté sans passer par la lutte. Mais c'est seulement en obéissant à Dieu et en nous confiant en lui que nous pourrons arriver là où Dieu veut nous conduire. Ne nous décourageons pas de le suivre, ne décourageons pas les autres et ne nous laissons pas décourager par eux. Marchons fidèlement à sa suite et nous ne serons pas déçus. Notre Dieu nous donnera la victoire si nous le suivons là où lui-même nous précède. Amen.